Bonjour et bienvenue sur Fréquence Mistral pour cette émission dans le Jardin des Mots. Aujourd'hui, dans le Jardin des Mots, accueille deux personnages étonnants et déroutants. Voilà ce que j'aimerais dire.
Ah ouais,
des personnages
même.
Déroutants.
Interlope.
Donc, interlope, oui. Alors, René Frény, interlope,
ouais, c'est ça.
Je te laisse la responsabilité de tes dires. Et Philippe Carrez.
Moi, déroutant, parce qu'interlope, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, c'est bien.
Ah,
déroutant.
Oui, c'est pour
j'ai très peu de vocabulaire,
c'est,
donc
c'est,
oui,
c'est,
on est mal barré.
C'est un petit peu difficile.
Interlope, c'est déroutant.
C'est ça, ouais.
Donc, donc, vous le savez, cette émission a une seule ambition. C'est de vous faire partager des rencontres et des découvertes. Nous sommes tous des êtres de parole, mais nous sommes tous des personnages masqués. Dans la vie, on avance masqué. Et dans cette émission, j'ai envie toujours, un petit peu par provocation, beaucoup par regard sur l'autre, voilà, de gratouiller un petit peu et de savoir qui se cache derrière René Frény, qui se cache derrière Philippe Carrez aujourd'hui. Alors, pour démarrer, peut-être chacun d'entre vous a choisi une musique. Nous la découvrirons au cours de l'émission. Et chacun d'entre vous a choisi un texte que je vais lire pour vous. Mais auparavant, et en début de rencontre, Monsieur Philippe Carrez, que souhaiteriez-vous poser comme question à Monsieur René Frény?
Moi, j'ai une question pour René, mais le problème, c'est que c'est une question qu'on pose une fois qu'on sait un peu qui est René, donc c'est peut-être...
C'est
à quel point le fait de travailler dans l'univers carcéral, ça t'a aidé?
Ça m'a aidé autant que la psychiatrie où j'ai travaillé 10 ans. La psychiatrie m'a permis de comprendre la folie, toutes les psychoses, la schizophrénie, la paranoïa, de comprendre qu'il n'y avait pas d'un côté les gens absolument normaux et les fous de l'autre, qu'il y a toute cette panoplie au milieu de névroses, de déséquilibres, de petites folies aussi quotidiennes et de fantasmes. Et la prison m'a permis de comprendre qu'entre moi et les mecs qui sont dans les baumettes, il n'y a pas qu'un double mur qui sépare le bien du mal et que il y a toutes les couleurs, là aussi, du crime qui me sépare de ces gens-là. C'est-à-dire, ça m'a rendu tolérant. La psychiatrie m'a rendu tolérant. La prison où je vais depuis 20 ans me rend tolérant parce que ça me rapproche d'eux et ça les rapproche de mon métier, de l'écriture, puisque je leur apporte des mots, je leur apporte des phrases. J'écoute leur vie de criminel, de braqueur, de proxo, etc. Donc je me rends compte que je suis un peu comme eux, malgré tout, et qu'ils sont un peu des écrivains, puisqu'ils écrivent avec moi depuis des années. Voilà, la prison, la psychiatrie m'ont rendu beaucoup plus tolérant.
Et est-ce que ça te nourrit en personnage?
Ça te nourrit non seulement en homme, mais en tant qu'écrivain, parce que on se nourrit de tout. Moi, je me nourris des saisons, des collines, de toutes les femmes que je vois passer dans la rue, des histoires que j'entends au baumettes. Tout me nourrit, comme toi. Un écrivain, tu sais, c'est l'histoire du joueur de flûte qui marche dans la ville et qui ramène tout chez lui. Il joue, et il ramène les enfants, les rats. Nous, on ramène des mots. Et avec ces mots qu'on a ramenés chez nous, on fait des... On invente des légendes.
Ouais, moi, un jour, j'ai joué de la flûte dans la rue, j'ai jamais ramené de gonzesse, mais bon, c'est autre chose, c'est pas, tant pis. J'essaierai d'autre chose que la flûte, peut-être. J'essaierai de jouer de la contrebasse dans la rue. La contrebasse dans la rue, c'est pratique.
Oui.
C'est un peu encore moins, mais...
Bon, vous aurez compris, pour tous ceux qui nous écoutent, que René n'en est pas à ses débuts d'écrivain, n'est-ce pas? Et que le travail qu'il a réalisé, qu'il réalise depuis des années dans les prisons, est quand même un élément important de sa veine créative. Et maintenant, Philippe, que personne ne connaît forcément comme nous le connaissons nous, mais que tout le monde connaît comme écrivain, parce que c'est un grand bonhomme qui nous fait pas forcément toujours rêver, qui nous fait parfois cauchemarder quand même. Donc pour commencer à découvrir qui est Philippe Carrez le vrai, René, tu lui poses quoi comme question ?
Une question qui m'a toujours tourmenté quand je le vois, parce que j'ai dit un jour que c'était notre Boris Vian régional. Moi, j'écris mes livres avec beaucoup de difficultés, comme un artisan qui souffre. Et Philippe, il fait des films, il fait du cinéma, il fait de très beaux dessins humoristiques, il dessine très bien, il est un très bon musicien. Il fait des romans et je me demande où il trouve cette panoplie d'énergie, d'inspiration. Moi, pour faire une page de... Je sais à peu près faire que ça, quelques pages de livres. Et lui, il fait tout ça. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il a quatre cerveaux ou...
J'ai quatre cerveaux. Non, j'ai juste de l'énergie, je sais que j'en ai. Ça, c'est la base et je l'ai su très tôt. C'est-à-dire que j'ai su très tôt que j'avais des trucs à essayer. Parce que moi, dans la vie, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer des choses. Donc d'essayer des nouvelles voies et surtout d'essayer des choses qui n'ont jamais été faites ou qui ont été tout juste effleurées. Ça, c'est le côté laboratoire expérimentation me plaît beaucoup. Et il se trouve que j'arrive à un moment, j'ai fait des études de cinéma, et j'arrive à un moment où les outils, par exemple, c'est-à-dire les outils de tout ce qui tourne autour de la vidéo, se démocratisent. Donc ça veut dire que c'est un moment où je peux me permettre d'essayer des choses dans cet univers-là. Donc j'essaye, depuis 30 ans que je suis réalisateur, de faire des choses un peu nouvelles en télévision, en cinéma. Pas forcément avec le succès que j'espère, mais au moins je vais jusqu'au bout de mes expériences. Et comme j'ai cette espèce d'énergie qui me pousse à essayer de raconter des histoires, j'essaye un peu toutes les voies pour raconter des histoires. Donc la musique, c'est une voie pour raconter une histoire. C'est-à-dire qu'avec la musique, tu peux raconter la tristesse, tu peux raconter la joie, tu peux raconter ce que tu veux. Il se trouve que j'ai l'énorme chance d'être effectivement plutôt bon musicien, que j'ai une oreille qui est plutôt pas mauvaise. Donc du coup, c'est une voie aussi où je pousse l'expérimentation à force de composition, à force de monter des groupes, à force d'essayer des choses. La littérature, c'est un peu pareil. La littérature, c'est venu sur le tard. La littérature, en fait, moi, je suis réalisateur avant tout. C'est-à-dire que ce que j'ai appris comme métier, c'est raconter des histoires avec des images et du son. Et il y a un moment où ça me suffisait plus, donc j'ai essayé la littérature, donc je m'y suis attelé. Ça me prend beaucoup de temps aussi. C'est pas si facile que ça. Mais comme j'ai cette espèce d'énergie qui me pousse à essayer d'aller un peu au bout des choses, ben effectivement, j'ai aussi essayé d'écrire des romans. Je me suis pris au jeu parce que c'est un jeu. C'est un vrai jeu. Pour moi, écrire, arriver à raconter une histoire et arriver au bout de cette histoire et arriver à raconter ce que j'ai envie de raconter, c'est quand même un jeu. C'est très, il y a quelque chose de ludique, même si ce que je raconte n'est pas forcément très drôle. Et donc voilà. Et en plus, toutes ces activités se nourrissent. Ce qui est aussi pour moi vachement important. C'est-à-dire que le fait que je sois plutôt bon musicien, ça nourrit le rythme des montages que je fais quand je fais des films. Le fait de savoir un peu mieux écrire de la littérature depuis que je fais des romans, ça nourrit mes scénarios, c'est-à-dire que les personnages de mes scénarios sont mieux construits. Tout ça se répond. Et c'est ça qui me pousse à continuer, quoi.
Alors, pour tous les deux, maintenant, une question de ma part. Le premier souvenir d'homme d'écriture, c'est-à-dire la première fois que vraiment le fait d'être un écrivain a représenté quelque chose pour toi et pour les autres, René, d'abord.
Écrivain publié, tu veux
écrivain
dire
publié, écrivain, le je suis écrivain. La première fois que tu as pris conscience de cette mission, de cet engagement qui était tien.
Je dirais que mon plus beau souvenir, c'est un souvenir affectif. Je m'étais fait virer de toutes les écoles de Marseille. J'ai arrêté mes études au BEPC, donc j'avais tout raté. Et ma mère me disait toujours, tu aurais pu être instituteur, professeur, et tu fais la plonge dans des restaurants, tu fais n'importe quoi. Et elle était assez triste de voir que j'avais gâché ma vie. Et j'ai publié un peu tard mon premier livre, j'avais 38-39 ans. Ma mère était venue vivre près de moi à Manosque. Et un jour, elle est passée dans la rue Grande. Il y avait encore 3 librairies dans la rue Grande. Et elle a vu mon premier livre, Les Chemins Noirs, dans la vitrine. Et elle m'a appelé le soir même. Elle m'a dit, je me suis caché dans le porche en face de la librairie. Et tout l'après-midi, j'ai regardé ce livre avec tous les cheveux blancs que j'ai eus à cause de toi. Tout ce que tu m'as fait en une après-midi, tu m'as rendu heureuse parce que tu... Pour elle, les romanciers, c'était Victor Hugo, c'était les grands romanciers. Donc elle ne pensait pas qu'on pouvait écrire des livres aujourd'hui comme ça, si on n'était pas Victor Hugo. Et donc elle a vu mon livre avec mon nom dans cette vitrine. Elle m'a dit que ça a été le plus beau jour de... Et rien que pour ça, je crois que je l'aurais écrit, ce livre, pour rattraper tout ce que j'ai fait subir et souffrir à ma mère pendant des années. Voilà, ça a été un bonheur pour moi, rien que pour ma mère, j'ai écrit ce livre.
C'est une belle histoire et puis c'est une histoire qui donne plein d'espoir aussi parce que des jeunes aujourd'hui en perdition, il y en a pas mal. Des jeunes qui font faire des cheveux blancs, des barbes blanches à leurs parents, il y en a beaucoup. Le monde est quand même très 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 difficile. Et merci pour cet espoir, je dirais. Philippe, vous
Moi, mon premier souvenir où je me suis dit « ça y est, je fais de la littérature », c'est en fait le jour où mon éditeur corse, parce qu'en fait, le premier roman que j'ai écrit, « Ton jour d'Angade », dans un premier temps, a été édité par un éditeur corse qui était un mec adorable, qui s'appelait Paul-André Bungelmi, Et après, le bouquin a été repris par Fleuve Noir, puis par Pocket. Puis... Et en fait, donc, je me suis retrouvé avec tous les bouquins dans ma cave parce qu'en fait, l'imprimeur était à Marseille. Je suis allé chercher Paul André à l'aéroport parce qu'il venait de Bastia. Et je l'ai mis dans la voiture et on a commencé à faire le tour des libraires. Le premier libraire qu'on a fait, il m'a mis la honte parce qu'il a commencé à dire n'importe quoi et à bouffer les croissants qui étaient sur la table du libraire. Donc j'ai dit, attends, Paul-André, laisse-moi, je m'en occupe. Et en fait, après, Paul-André, il a passé sa journée dans la voiture à dormir parce qu'il était très fatigué. Et c'est moi qui démarchais les libraires à sa place. Et je me suis dit, putain, si c'est ça les littératures, c'est pas gagné, quoi. Voilà. Et là, je me suis dit, ça va. Donc je suis effectivement, c'est bien ce que je pensais. C'est absolument pas le truc dont je rêvais. C'est pas le truc qu'on t'accueille dans les salons et où tu te retrouves dans des. Tu vois, avec des. Voilà. Non, dans la littérature, ça va être un truc où il va falloir démarcher sans arrêt des gens pour essayer de leur faire comprendre que ce que tu écris, ça vaut le coup d'être lu. Et je pense que mon premier souvenir, c'est ça. C'est mon éditeur qui dort dans la voiture et moi qui galère avec le libraire parce que c'est pas mon métier, quoi. Là, c'était pas mal comme souvenir.
Oui, c'est pas mal. C'est une. Le sens du chemin de l'écriture passe aussi
c'est ça.
Par
l'éditeur qui dort dans la voiture, c'est ça, voilà.
C'est intéressant. C'est intéressant, oui, tout à fait. C'est l'histoire de l'écrivain et l'histoire de l'écriture qui va... C'est aussi un petit peu le sens du chemin du Jardin des mots. C'est aussi d'aller de l'auteur, de l'idée, de ces personnages qui vivent en vous avant même que vous ne les écriviez, d'ailleurs. Jusqu'au lecteur. Et donc, on a reçu ici aussi des lecteurs, des éditeurs. C'est un chemin difficile, le chemin du livre. Hein. C'est plein de choses trappes aussi. Et après avoir écouté un petit peu de musique, je vais vous lire quelques lignes de l'un et de l'autre pour que vous jouiez avec des univers et des imaginaires différents. Alors Philippe, pourquoi
la valse ce
choix
de Ravel. Moi, en fait, j'ai un truc avec Ravel, c'est qu'en fait, c'est Ravel qui m'a fait découvrir la musique dite symphonique. J'étais très branché quand j'étais gamin, jazz, rock'n'roll, musique afro-cubaine. Et un jour, j'avais 21 ans, je faisais mon premier documentaire sur un musicien de jazz que je suis allé chercher à l'aéroport. Et dans sa petite valise, c'était Jean-Loup Lognon, qui est un trompettiste assez remarquable. Dans sa valise, en fait, il avait une paire de Santiago, deux slips, deux chaussettes, sa chemise et tous les disques de Ravel. C'est-à-dire que lui, il se nourrissait avec Ravel. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce mec? C'est quoi ce truc? Et donc, j'ai commencé à écouter Ravel et ça a été une vraie révélation. C'est-à-dire que pour moi, c'est un espèce de miracle permanent. Chaque note de Ravel est un miracle permanent. C'est surtout quelqu'un qui a osé des choses et qui a vraiment fait avancer, alors qu'il s'en est pris plein les dents, comme chaque fois que quelqu'un veut faire avancer les choses, ce qui est normal. Et c'est quelqu'un qui a un univers qui est d'une poétique qui m'émeut vraiment beaucoup. J'ai eu l'occasion par la suite de faire donc, en tant que réalisateur du documentaire sur des orchestres symphoniques, et entre autres, une fois sur un orchestre symphonique, en fait, qui jouait la valse de Ravel, qu'on a écouté là, et j'ai passé en fait une semaine sur le montage de cet orchestre symphonique, en fait, où quasiment instrument par instrument, j'ai décomposé la partition de la valse, et c'est prodigieux, quoi. C'est quelque chose à la fois d'une inventivité incroyable et d'une cohérence qui est fabuleuse. Et donc pour moi, Ravel, c'est vraiment c'est le musicien. Et ce qui est rigolo, c'est que moi, en fait, j'ai découvert la musique dite instrumentale symphonique par ce qui s'est passé après Ravel. C'est-à-dire que bon, il y a eu Ravel, puis après il y a eu Shostakovich, et puis il y a eu Dutilleux, et puis il y a eu en fait tous les compositeurs du XXe siècle. Et après j'ai découvert la musique classique en remontant, et du coup en remontant sur des gens comme Schubert, Schumann et encore avant, j'ai trouvé ça presque un peu ennuyeux, quoi, parce que c'est tellement riche ce que j'avais découvert avec Ravel et Debussy que voilà. Et ça, je m'en suis servi par exemple dans Virtuoso Ostinato, qui est le premier roman de la saga que j'ai démarré depuis 2 ans, mon personnage, je le fais rencontrer Ravel. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire se passe en 1913. En fait, mon personnage rentre au conservatoire de Paris en 1913. En 1913, c'est Gabriel Fauré qui est le directeur du conservatoire. Et donc, mon personnage, je lui fais avoir comme professeur, ce qui est la réalité historique, Debussy, Lucas et Ducas et Ravel. Et donc, j'imagine une rencontre de ces personnages entre eux. Je fais assister à mon personnage à la première du Sacre du Printemps, Stravinsky, au Théâtre des Champs-Élysées, où ça a été un tollé parce qu'en fait c'était trop d'avant-garde, quoi. Pour moi, Ravel, il y a vraiment avant et après, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment parce qu'en cinéma il y a comme ça des directeurs photos où il y a avant et après. C'est-à-dire, par exemple, il y a un film, c'est Le Parrain. Il y a le cinéma d'avant Le Parrain, le cinéma d'après Le Parrain. C'est une vraie bascule. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce sont des univers dans lesquels on est où il y a chaque fois un élément de bascule de quelqu'un qui a osé faire des trucs que personne n'osait avant. Et que même des gens disaient, oui, mais c'est une connerie, ça ne marchera jamais. Et puis d'un seul coup, on s'aperçoit que non seulement ça marche, mais c'est 10 fois plus efficace et c'est 10 fois plus beau. C'est pour ça, Ravel.
C'est pour ça, Ravel. Et aujourd'hui, la musique qui vous parle, c'est...
La musique qui me parle, en fait, il y a beaucoup de choses qui me parlent. Il y a Steve Reich qui me parle bien, mais Steve Reich, c'est un compositeur qui a fait de la musique sérielle. Je dirais que c'est pas dépassé. Steve Reich n'est pas dépassé. Mais disons que Steve Reich, je suis tombé un peu là-dedans il y a une vingtaine d'années. Donc ça m'a nourri un peu. Sinon, il y a de la musique afro-cubaine et la musique brésilienne me parle pas mal. J'ai aussi un énorme attrait pour tout ce qui est les musiciens de jazz funk qui gravissent depuis une vingtaine d'années. Les derniers en date, c'est un groupe qui s'appelle Snarky Pumping qui tourne en ce moment. C'est des jeunes de Berkeley qui sont infernal de précision et d'inventivité. C'est du jazz. Alors, est-ce que c'est du jazz? Je sais pas. C'est du funk. C'est quelque chose de complètement hallucinant, quoi. Mais disons que c'est chaque fois que je me prends d'amour pour une musique, c'est jamais une musique qui est passée dans le domaine public. C'est-à-dire que j'aime très rapidement les choses qui sont ressassées m'ennuient. Donc je suis tout le temps à la recherche de ça. Et je trouve, hein, alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, le problème des médias, c'est qu'on ne trouve pas forcément facilement. C'est-à-dire qu'il faut arriver à avoir la curiosité pour avoir accès à ces trucs-là. Mais moi, par exemple, sur de la musique vivante contemporaine, c'est-à-dire le jazz d'aujourd'hui, moi, c'est un truc tout con, je suis abonné à une chaîne télé sur YouTube. C'est la chaîne télé de Berkeley, qui est l'école de musique américaine qui forme tous les musiciens de jazz actuels. Et il y a des pépites. Et c'est comme ça qu'on découvre des choses, c'est comme ça que ça avance. Et je pense que dans la vie, c'est vraiment ça, quoi. Il faut avancer, quoi.
Et René, la musique dans ta vie, dans ton œuvre?
La vraie musique, celle dont parle Philippe, elle a très peu de place. Je l'écoutais tout à l'heure, maintenant, là, je l'écoute et bon, c'est un puits de culture, c'est une encyclopédie musicale. Moi, je connais très peu de choses sur l'histoire de la musique, même parce que j'en écoute très peu. Mais je l'écoutais justement comme on écoute un disque. J'écoutais sa voix, j'écoutais ses mots. Et pour moi, c'est la vraie musique. J'ai toujours trouvé qu'elle était dans la voix. On disait tout à l'heure que je vous racontais que ma mère me lisait quand j'étais enfant, parce que je n'y voyais pas, je ne mettais pas de lunettes, et elle me lisait le soir pour m'endormir des beaux textes de Victor Hugo, d'Hector Malot, et ça me faisait pleurer tellement c'était beau. Et j'ai toujours dans ma tête lié la musique à la voix de ma mère, à la voix et aux mots, aux émotions qui sortent d'une voix et d'une chaîne de mots. Donc cette musique, pour moi, elle est supérieure à tout. C'est pour ça que je vais la retrouver. Mais dès que je suis quelque part, je me réfugie, je prends un livre, je lis. Je me cachais à l'hôpital psychiatrique dans les cabinets. Les infirmières pensaient que j'avais très mal au ventre. Mais je m'enfermais dans les toilettes, je m'asseyais sur les toilettes et je lisais. Parce que j'avais besoin, au moindre moment d'anxiété, je lisais quelques pages de poésie, de romans, des grands auteurs que je continue à lire. Et ça m'apaise de tout. Certains, comme Philippe peut-être, vont prendre Debussy, Ravel, etc. Moi, je prends un livre, cette musique qui sort du livre, elle m'apaise de tout. Un peu comme si la beauté était là. Et c'est vrai, quand on regarde, nous les hommes, une très belle femme passer, ou quand on ouvre un très beau livre, on a l'impression qu'on oublie qu'on est mortel. La beauté écarte la mort. Et moi, c'est la beauté des mots qui sont dans la chanson française. J'écoute régulièrement encore hein, Ferré, Ferrat, Brel, des chansons de Barbara, de certaines chansons de Goldman, parce que j'ai besoin que la musique soit liée à une histoire qu'on me raconte avec beaucoup de romantisme et de poésie. Mais puisqu'il parlait de Ravel, que je connais très mal, moi j'ai toujours associé le boléro à l'écriture, au travail que fait l'écrivain. Parce que c'est répétitif, ça monte en puissance, il y a une spirale dans ce boléro. Et en même temps, c'est tellement répétitif, c'est exactement comme quand j'écris. C'est-à-dire que j'entre dans un univers en spirale, et cette petite musique de boléro, c'est la musique de l'écrivain, très répétitive. Et il faut trouver son propre boléro. L'écrivain, je crois que le grand écrivain, c'est celui qui est arrivé à trouver son boléro, cette musique intérieure.
Son rythme. Mmh. Et voilà. C'est pour cela, René, que tu as choisi de nous faire écouter...
Ferrat.
Ferrat.
Qui chante Aragon.
Que sais-tu ? Les plus simples choses, les jours sont des soleils grimés. De quoi la nuit rêve les roses, tous les feux s'en vont en fumée. Que sais-tu du malheur d'aimer. Je t'ai cherché au bout des chambres où la lampe était allumée. Nos pas n'y sonnaient pas ensemble, ni nos bras sur nous refermés. Que sais-tu du malheur? Je t'ai cherché à la fenêtre, les parcs en vin sont parfumés. Où peux-tu bien être? À quoi bon vivre au mois de mai? Que sais-tu du malheur? Que sais-tu de la longue attente et ne vivre qu'à te nommer? Dieu toujours même est différente et de toi moi seul à blâmer. Que sais-tu du malheur? Que je m'oublie et je demeure comme le rameur sans ramer. Sais-tu ce qu'il est long qu'on meure à s'écouter se consumer? Connais-tu le malheur?
Ceux qui prennent la voiture à cette heure-ci, vous êtes dans le Jardin des mots et je reçois aujourd'hui Philippe Carrez et René Frény, auteurs dont on n'a plus d'éloge à faire et pas qu'auteurs. Et hors antenne, René nous disait que la beauté des mots, hein, la beauté des mots, l'écriture, etc. Alors moi, j'ai envie de vous demander à l'un puis à l'autre, justement, ce travail sur les mots. Est-ce que vous avez l'écriture facile? Est-ce que ça rature beaucoup? Est-ce que la recherche du mot, la recherche de la musicalité de la phrase, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Et comment les choses, comment de la page blanche on en arrive à l'histoire?
Pour moi, il y a un problème de rythme. Enfin, il y a un problème. Il y a une problématique du rythme. et ça, ça peut-être qu'on rejoint justement mes préoccupations de musicien, il y a une problématique de la respiration qui va un peu avec le rythme, mais pas seulement. Il y a une problématique de la musicalité, des mots les uns avec les autres. Et après, il y a aussi une problématique de l'efficacité. C'est-à-dire que il m'est arrivé parfois d'écrire des trucs parce qu'en fait, ça vient et que tu as envie d'écrire et tu te lances et tu fais des phrases qui en finissent plus. Et au final, en fait, une fois que j'ai repris tout ça, en fait, les mots, il y a un sujet, un verbe, un complément avec trois points, quoi. Mais tout ça parce qu'en fait, à la lecture, j'essaie de me mettre dans la peau de quelqu'un qui découvre. C'est toujours pareil. Se mettre dans la peau de quelqu'un qui découvre le texte et de savoir dans quelle mesure, à la fois, il va pouvoir être pris par cette musique et à quel moment il ne va pas s'ennuyer ou à quel moment il ne va pas perdre le fil. Pour moi, ça, c'est important. Après, il y a effectivement un problème de musicalité, il y a un problème d'efficacité. C'est-à-dire, il y a vraiment... moi, les seules contraintes que je me donne quand j'écris, c'est que quelqu'un qui ne me connaît pas comprenne. C'est-à-dire que il faut que je donne dans le récit, alors pas forcément tout en bloc, genre mode d'emploi et après vous y allez, il faut que dans mon récit, il y ait tous les éléments pour que quelqu'un qui ne connaît pas mon univers, qui ne me connaît pas personnellement, puisse accéder à toutes les informations qui lui permettront d'aller jusqu'au bout de l'histoire. C'est un peu la règle du jeu que je me suis posée au départ. Parce que moi, de formation, je suis pas littéraire, donc j'ai jamais appris vraiment à écrire des romans. Par contre, je pense savoir à peu près structurer une histoire, la raconter, développer des personnages. Et après, c'est ce qui fait que le récit avance. Alors après, c'est vrai que c'est long. Écrire un roman, c'est très long. C'est du travail et c'est surtout un boulot de concentration terrible. C'est-à-dire que si quand vous écrivez un roman qui va durer, par exemple, je pense à un roman que j'ai écrit il y a quelques années qui s'appelle Conduite accompagnée, l'action se passe en 12 heures. J'ai mis 6 mois pour l'écrire. Le lecteur n'a pas à savoir si j'ai mis 6 mois pour l'écrire, 3 mois, 15 jours ou 12 heures. Donc ce qui veut dire que pendant les 6 mois d'écriture, j'ai été concentré sur le rythme de ce récit, sur les personnages, sur le style de ce récit. Et en fait, le lecteur, il n'a pas, à la page 37, parce que je me suis arrêté d'écrire pendant 3 jours, à se dire, ah oui, tiens, il s'est arrêté, il s'est un peu reposé, après il a repris. Donc c'est un vrai problème de concentration aussi. C'est-à-dire que c'est un problème de... Ce qui veut dire que pour les gens qui sont autour de moi, et je pense que René, ça doit être pareil pour toi, les gens qui sont autour de nous, c'est pas facile, quoi. Vivre avec quelqu'un qui écrit, moi je me rappelle de mes gamins qui rentraient de l'école avec des mauvaises notes, qui venaient me dire, papa, j'ai de mauvaises notes, je dis, ouais, c'est bien, vas-y. Parce que j'étais tellement dans mon truc. Non, mais c'est ça. On est tellement concentré, tellement dans ces histoires qu'on essaie de faire avancer. Mais c'est aussi ça qui est passionnant.
Alors, en ricochet, hein, tu écris à l'ordinateur, je présume. Ouais. Donc, il n'y a pas de...
J'écris à l'ordinateur parce qu'en fait, j'écris tellement mal à la main que je ne me relis pas. Quand je prends des notes, je n'arrive pas à les relire. C'est tragique.
C'est gênant. C'est très, très
gênant. Donc, du coup, l'ordinateur, c'est bien. En plus, l'ordinateur, moi qui suis je suis totalement bordélique, ça m'oblige à mettre de l'ordre. C'est-à-dire que ça m'oblige à enregistrer. Et en plus, il y a quand même un truc que j'ai remarqué, enfin que j'ai un peu analysé, c'est qu'avec l'ordinateur, aujourd'hui, on a une forme qui ressemble beaucoup à ce à quoi ressemblera le roman à la fin. C'est-à-dire que les pages blanches qui s'affichent les unes derrière les autres, avec la police de caractère qu'on a choisie, qui peut être assez proche de celle de l'édition définitive, ben finalement, c'est presque un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu vidéo, c'est j'écris un livre, il faut que j'arrive au bout. Et tu avances. Et tu as les épreuves, et tu as les étapes, et tu gagnes une vie, ou tu perds une vie, parce qu'en fait, tu aperçois que ton chapitre, il est ridicule, il ne veut rien dire, ou tu te dis, il y avait une idée géniale, tu t'aperçois une fois qu'elle est sur le papier, qu'elle est ridicule, et donc tu repars. Mais, quelque part, il y a quelque chose avec l'ordinateur qui est très ludique. Vraiment. Voilà. Bon, après, il vaut mieux que l'histoire tienne la route, parce qu'il n'y a pas que ça qui compte. Quoi.
Et je le crains, voilà. Oui. Alors, on fait un saut de part et d'autre de la table, et là, on a un type d'écriture sensiblement différent, n'est-ce pas, René?
Oui, mais je lisais tout à l'heure, hein, comme je n'y voyais pas, je me suis fait renvoyer de pas mal d'écoles et tout. Et ce qui me faisait le plus peur, c'était les livres et les cahiers. Et pourtant, on est là pour des livres et des cahiers aujourd'hui. Ça fait 30 ans que ma vie s'organise autour des livres et des cahiers. Mais j'avais horreur de l'école parce que les enfants se moquaient de moi, me traitaient de quatre-œils. Et donc, les livres et les cahiers étaient des instruments de torture. Et puis, comme j'avais été un peu marginal dans les écoles, je l'ai été un peu à 19 ans à l'armée, et je me suis retrouvé dans une prison militaire. Donc, condamné à 6 mois de cachot pour désertion. Et là, pour la première fois, l'aumônier m'a apporté des livres et un cahier. Et très très vite, j'ai compris la beauté des livres et du cahier, parce que comme il n'y avait rien, la cellule faisait 7 mètres carrés, j'ai ouvert ce livre, qui était un livre de Giono, Colline, et je me suis promener là dans ces collines qui sont autour de nous, avec les odeurs, le chant des fontaines, les étoiles la nuit. J'ai trouvé ça tellement merveilleux que je n'étais plus dans mes 7 mètres carrés de béton, j'étais en Provence. Et le soir, je prenais mon cahier et j'écrivais avec beaucoup de fautes d'orthographe, de fautes de grammaire. Mais chaque mot que j'écrivais faisait entrer la chose. Si j'écrivais le mot sapin ou le mot fontaine ou le mot femme, j'avais autour de moi une fontaine, un sapin, une femme. Le mot faisait rentrer la vie dans la cellule. Et j'ai continué à écrire sur des petits cahiers, des colliers, et je me suis rendu compte que non seulement toutes ces émotions dansaient autour de moi, mais que l'écriture à la main était érotique. L'écriture, c'est très érotique. C'est-à-dire qu'on prend un mot, puis un autre, et c'est comme si on faisait l'amour avec la langue. On tord la langue, on la caresse, on la fait crier, on la fait souffrir, on la fait jouir, et puis on la caresse encore. Voilà, c'est écrire avec un stylo, c'est faire l'amour. Et je m'en suis rendu compte au Baumettes, parce qu'au Baumettes, je n'osais pas dire aux détenus d'écrire sur l'érotisme, parce qu'ils sont privés de leur femme, ils sont privés d'érotisme, ils font très mal l'amour et vite au parloir, et donc ils voient leur corps s'éteindre. Et ils me disent, au bout de 5 ans, on est comme des murs et des barreaux, on n'a plus d'érection. Et un soir, je leur ai dit quand même, tiens, écrivez sur le mot « talon aiguille ». Et ils ont été étonnés que je leur donne ce mot « talon aiguille ». Et quand je suis revenu, ils m'ont lu des textes qu'ils avaient écrits. Et Pierre m'a dit, il y a 2 ans ou 3 ans que je ne me masturbais plus, justement parce qu'ils deviennent des murs et des barreaux, ils perdent leur sexualité. Ils perdent tout fantasme. Hein. Ils ne voient plus rien. Et là, il m'a dit, j'ai écrit « talon aiguille ». Puis j'ai dû écrire le mot mollet, le mot cuisse, le mot ventre. J'ai senti dans ma main une cuisse, un ventre, et j'ai senti une érection. Et il m'a dit, bon ben là on est à, j'imagine que les enfants n'écoutent pas cette heure-ci, là, mais il m'a dit, j'écrivais de la main droite et je me masturbais de la main gauche. Et j'étais très content parce que lui, il avait retrouvé justement grâce à l'écriture l'érotisme, parce que l'écriture c'est de l'érotisme.
C'est la force des mots.
C'est la force des mots.
C'est la force des mots. Odile, on peut avoir un peu de musique sur cet envolé lyrique, on va dire ?
Milano vicino all'Europa, Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride, si diverte. Milano a teatro, uno le da torero, Milano che quando piange, piange davvero. Milano carabinieri, polizia, che ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via. Milano a portata di mano, ti fa una domanda in tedesco e ti risponde in siciliano. Poi Milano è Benfica.
Bien, eh bien, nous sommes toujours avec Philippe Carrez et René Frény. Et moi, j'ai envie de poser une question un petit peu nouvelle. Enfin, nouvelle, pas du tout nouvelle, d'ailleurs. Vous êtes 2 auteurs connus, reconnus, accueillis, invités, etc. L'impact de la création et de l'écriture dans la société est quand même forte. Comment vous vous situez en tant que citoyen et passeur ?
Ben, je pense que si on écrit, c'est justement parce qu'on essaie d'être ça. On a l'énorme chance d'être édité, c'est-à-dire on a l'énorme chance que ce qu'on écrit puisse circuler. L'acte d'écrire, c'est pas innocent, quoi.
C'est très clair.
C'est pas innocent et c'est pas non plus. Je veux dire, des fois, moi, en rigolant, je dis ouais, moi j'écris pour me faire des gonzesses, mais pas du tout, quoi. De toute façon, ça marche pas. Donc,
il faut essayer
la guitare. Je vais essayer le rock and roll. J'ai essayé aussi, ça marche pas non plus. Non, mais sans rigoler, c'est vraiment. C'est un vrai acte. L'écriture, c'est un vrai acte important, quoi. On n'écrit pas des mots pour écrire des mots. On n'écrit pas des mots pour remplir des pages. on n'écrit pas des, on, je veux dire, on n'écrit pas pour que sur une carte de visite, enfin, moi, je n'écris pas, René non plus, hein, des gens qui sont autour de nous, oui. Qui font partie de notre cercle non plus.
Tout à fait.
J'en connais, par contre, qui le font, mais c'est autre chose. On n'écrit pas pour que sur la carte de visite, il y ait juste écrit écrivain, quoi, écrivain. C'est, moi, je m'en fous que sur ma carte de visite, il y ait écrit écrivain. C'est pas le statut d'écrivain qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter des choses, de faire passer, peut-être un peu, moi, j'ai la chance de faire un métier qui est la réalisation pour la télévision. Donc du coup, j'ai la chance d'être sur le terrain beaucoup plus que d'autres personnes. C'est-à-dire que j'ai la chance de voir de rencontrer des gens qui sont dans des milieux totalement opposés, totalement différents du mien. J'ai la chance d'explorer des univers. Et j'ai aussi la chance d'avoir eu suffisamment d'éducation pour avoir une réflexion là-dessus et pour avoir une réflexion sur le monde qui nous entoure. Donc il y a un moment donné où la littérature, c'est-à-dire le fait d'écrire, c'est aussi de poser sa propre réflexion sur les problèmes de la société. Donc c'est quand même et nous on a la chance que des gens puissent le lire et que nos mots et que l'écriture puissent servir à la fois de support de débat, de support de discussion, de support d'énervement, ce qui est très bien aussi. Et on a cette chance-là, donc c'est pas innocent quoi.
Tout à fait, c'est tu pas vois, innocent du ce tout. Je vois bien ce que tu veux dire. C'est une réelle mission, c'est un engagement.
On peut dire que c'est un engagement. C'est pas comme ça, quoi.
Et d'ailleurs, je vais juste vous lire une petite définition dans le petit lexique de ma belle Provence que j'aime, qui est le premier guide lexique foncièrement stupide, inutilement cruel et d'une mauvaise foi absolue sur la Provence,
totale,
de Philippe Carrez. La définition de xénophobe, ça ouais, va bien là. Hein.
Ça va bien, oui. En ça fait, c'est, bien, juste là. Pour préciser, c'était un petit recueil qu'on avait fait, que j'avais coécrit avec Jean-Pierre Casselli, qui est un copain à moi, avec qui j'avais écrit pas mal de choses d'ailleurs. Et en fait, c'était tout le cliché de la Provence, mais à la hache. C'est-à-dire qu'en fait, on avait pris tout ce qui faisait que la Provence était une espèce d'univers de Walt Disney un peu exotique, et on avait pris tous les clichés dans l'ordre alphabétique, et on a tout ravagé, quoi.
Moi, j'aime bien l'histoire du copain à moi. C'est très marseillais, ça aussi.
Oui,
avec un
aussi.
Copain à toi, bon, tout va bien. Donc, xénophobe. Instrument de musique composé d'une caisse de résonance et de lattes de bois exotiques, savamment disposées, sur lequel on frappe à grands coups de batte de baseball ou de tuyaux de plomb, selon le son désiré. Le xénophobe est utilisé principalement par les forces de l'ordre pour galvaniser la jeunesse lors des soirées de Technopole, voir les différents artistes.
Voilà. Bah ouais, c'est un xénophobe. C'est ça.
Alors René, ton engagement, toi, tu nous as un petit peu parlé des prisons déjà, mais un engagement social, une façon de transmettre et de parler de quoi ?
C'est plus un engagement dans la vie qu'un engagement social. Moi, j'ai l'impression de vivre de plus en plus quand j'écris et quand je lis, comme si j'étais plus en contact avec le monde quand je lis et j'écris. Pourtant, je continue à voyager, à descendre dans la rue, à parler. Mais le monde, je le ressens encore plus comme s'il y avait un écho quand je suis seul dans cet état de concentration très particulier qu'est l'écriture. Et en plus, je comprends ce que Jules Renard voulait dire quand il dit « J'ai décidé d'écrire pour pouvoir parler sans être interrompu ». Quand on parle, c'est vrai qu'on est souvent parasité. Mmh. Alors que quand tu es seul chez toi, tu peux aller jusqu'au bout de ce que tu penses vraiment. Mmh. Tes émotions, tes fantasmes, tes peurs, tes hantises. Tu sors chaque mot.
Ouais.
Et tu es encore plus en contact avec le monde que lorsque tu es dans la rue. Parce que dans la rue, justement, il faut faire attention aux voitures, aux bruits, à tout. On est toujours sollicité. Quand tu es seul pendant une journée entière chez toi, dans le silence, tu es dans un état de dédoublement, de concentration, qui fait que les échos du monde, tu les reçois plus violemment. Et j'ai l'impression de vivre plus intensément quand j'écris que quand je vis dans la rue. Et puis, y a aussi que j'avais commencé par faire du théâtre, comme Philippe a fait du cinéma, mais je m'apercevais que quand j'entrais en scène, les gens riaient. Certes, j'avais un tempérament comique, mais j'ai un léger accent provençal qui fait un peu rire. Alors, tant que c'était du comique, ben, les gens riaient, et ça me faisait plaisir. Mais quand j'ai voulu passer au tragique, tu imagines, tu rentres en scène et tu dis, nous partîmes 500 et nous vîmes 3000 en arrivant au port. Les mecs, ils voient tous l'Estac ou la Joliette, mais ils sont plus dans la tragédie. Et je ne pouvais pas jouer, dont j'étais hémiplégique. Tu ne peux pas jouer de la tragédie quand tu as un accent quelconque, ou provençal, ou marseillais, ou breton, ou ch'ti. Donc tu es condamné à faire rire. Et comme je voulais aussi parler de mes émotions profondes qui me secouent, j'ai voulu écrire pour qu'on n'entende pas mon accent.
J'ai voulu écrire pour qu'on n'entende pas mon accent. Ça me plaît bien, ça. Ouais. C'est à la fois révélateur, j'allais dire. J'avais jamais du tout pensé à ça, à l'accent de l'écriture, en fait. Mais
j'ai senti que je ne pourrais jamais devenir un grand acteur complet, que je serais toujours le comique de la troupe. Mais j'ai toujours fait rire mes copains, parce qu'ils ont ri de moi à 6 ans, parce que j'avais des lunettes, ils se sont moqués de moi. Et pour qu'ils ne rient pas de moi, je suis devenu très comique, et je me disais, c'est moi qui les fais rire, ils ne rient pas de moi. Je me suis défendu par le rire, mais quand j'ai abordé la tragédie, je continuais à être un comique. Et ça, c'est très douloureux, parce que j'ai senti que je ne serais jamais un acteur complet, alors que quand j'écris, je me sens un écrivain complet. Je peux exprimer tous les sentiments. Je disais tout à l'heure, l'écriture, c'est faire l'amour, c'est tordre les mots, c'est tordre les phrases, c'est jouir avec elles. Eh bien, je suis aussi un tragédien quand j'écris. Je ne suis pas qu'un comique troupier.
C'est incisif. Alors, les personnages, malgré tout, des personnages, ils vivent en vous. Vous dites, on est dans la rue, on est ci, on est ça. Vous n'êtes pas toujours assis derrière votre bureau à écrire. Donc, ces personnages qui naissent en vous, est-ce que ça se maîtrise? Est-ce que ça vit à l'intérieur de soi, à l'insu de nous-mêmes, me semble-t-il?
Ce qui est très, très intéressant, c'est qu'en fait, on crée des personnages et qu'à un moment donné, où ils nous débordent. Et alors, c'est marrant parce qu'en fait, avant de commencer à écrire, donc il y a plus de 20 ans, quand j'entendais des auteurs dire ça, ça me faisait mourir de rien. Parce que moi, au départ, j'étais assez cartésien comme garçon. C'est-à-dire que j'ai fait un bac scientifique, donc j'étais une espèce de condomateux. Et un mec qui me disait, oui, alors tu comprends, j'ai inventé un personnage, mais le personnage m'a dépassé, il m'a débordé, il a fait sa vie. Je dis, mais oh, mon collègue, c'est toi qui le fais, ton truc. Et en fait, je me suis retrouvé dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'en fait, on écrit, on crée un personnage, on lui crée une caractéristique, on lui crée un environnement, on crée des événements autour. Et il y a un moment où, en fait, c'est aussi un truc très mathématique, c'est juste une juxtaposition de logique. C'est-à-dire que tu mets un homme et une femme dans une même séquence, et il y a un moment où il va se passer des trucs, et peut-être même des trucs auxquels tu n'aurais pas pensé. Parce que simplement le fait de poser les choses sur une feuille ou sur un ordinateur fait que la logique de la relation entre les personnages se déroule, et elle se déroule tellement qu'on n'a pas forcément tout imaginé avant de démarrer. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est ça. C'est de se dire à un moment donné, mais ce personnage-là, en fait, il est... Moi, je sais qu'il y a eu deux fois dans des romans que j'ai écrits où des personnages qui étaient totalement anecdotiques, c'est-à-dire genre un chauffeur de taxi. Je me rappelle, j'avais écrit un poulpe à la grande période du poulpe, il y a 18 ans ou 20 ans, où il y avait un chauffeur de taxi qui était vraiment un personnage complètement accessoire, qui était un type qui recevait à la gare de Marseille de nuit le héros qui arrivait. Pour moi, c'était juste une transition. Et en fait, en écrivant ce personnage de chauffeur de taxi, je me suis rendu compte qu'il me simplifiait. C'est-à-dire qu'il pouvait être d'une complexité telle qu'en fait, il me faisait économiser trois personnages. C'est-à-dire qu'en fait, et il est devenu quasiment le deuxième personnage du roman. Mais ça, c'était au moment où j'écrivais. C'est-à-dire que j'aurais jamais imaginé, avant de démarrer l'écriture du roman, que ce type qui s'appelait Robert Lanza, puisse avoir cette importance-là. Et ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est qu'il y a un moment où les personnages nous dépassent. Alors après, tout le jeu consiste aussi à revenir dans les clous dans lesquels on voulait aller au départ. C'est-à-dire que les histoires, elles peuvent partir très loin, elles peuvent même partir beaucoup plus loin que ce qu'on avait imaginé. Et ce qui est rigolo, c'est justement de faire en sorte que les mécanismes qu'on avait prévus au départ, on soit quand même pas trop loin de ce qu'on veut raconter, et que finalement, on arrive à récupérer le milieu, les personnages qu'on imaginait faire venir. Mais on s'aperçoit que tout ça, ça se met en place, mais ça se met en place avec beaucoup de travail. Parce que une fois de plus, l'écriture, c'est quand même beaucoup de travail, quoi.
Je le pense aussi. René.
Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils nous dépassent. Ils nous permettent d'aller très, très loin dans nos profondeurs. L'écriture, c'est ça. On s'assoit devant une table. Moi, je prends un stylo. Et petit à petit, au fil du roman, je dis toujours que je descends dans mes mers profondes. Plus j'écris, plus je descends dans ces mers profondes où je découvre des personnages qui étaient en moi, mais que je n'imaginais pas. Et ces personnages, je vais les raconter, les écrire, ils vont surgir. C'est pas qu'ils me dépassent, c'est que je découvre qui je suis profondément, alors que si je n'avais pas écrit, il y a tout un tas de personnages qui étaient embryonnairement en moi, qui ne seraient jamais développés. Et là, en écrivant, ils se développent comme une frondaison. Moi, je suis le tronc, René Frény, mais tous ces personnages sortent, font des branches, font des feuilles de livres, des feuilles d'arbres, des forêts de sentiments. Et tous ces personnages qui sortent de moi, ils sont révélés grâce à l'écriture. Je prends un exemple. J'avais commencé à écrire sur un détenu de la prison de Luynes que je trouvais étonnant. Il avait étranglé sa femme, jusque-là, ma foi, crime passionnel. Ouais. Il prend 18 ans. Ouais, il vivait dans sa cellule avec cette femme qu'il avait tuée. Et là, ça commence à devenir un peu original. Cet homme tue sa femme, on l'enferme, et il était tellement amoureux d'elle, puisque c'est un crime passionnel, il s'est mis à la peindre sur les murs, il s'est mis à lui parler, et les gardiens m'ont dit, il est un peu fou, il vit avec elle. Il va à la douche avec elle, il mange avec elle, il fait le ménage de sa cellule avec elle, il vit avec elle, il ne parle qu'à cette femme morte, à un fantôme. Et un jour, cet homme qui venait dans mon atelier d'écriture me dit, est-ce que tu pourrais venir dans ma cellule ? J'aime pas parler devant tous ces truands. Et avec l'autorisation du directeur, je vais dans sa cellule, je partage sa gamelle tous les jeudis à midi, avant d'aller à l'atelier, et j'entre dans l'univers de cet homme. Et je commence à écrire un roman, le roman de cet homme. Donc là, on est dans la réalité, mais une réalité quand même très décalée, très étonnante, très mystérieuse. Cet homme qui a tué sa femme et qui vit avec elle, et je commence à écrire le roman. Et je me surprends à avoir l'idée de le faire sortir de là, parce que je me dis, 18 ans, il va crever. Et j'ai commencé à observer la prison, non plus comme quelqu'un qui va travailler en prison, mais comme quelqu'un qui va faire évader quelqu'un de cette prison. Et mon roman s'est continué avec un homme qui observait la prison. J'y allais de nuit, j'y allais le jour, pour savoir comment on pouvait sortir un homme de cette prison. J'ai fini par inventer une évasion qui est devenue quasiment réelle. Et un jour, le directeur s'est aperçu de ce que je faisais parce que le livre a été publié. Il m'a interdit de revenir dans cette prison. C'est pour dire la dialectique qui entre la réalité et la fiction. Et la fiction devient tellement plus forte que la réalité à un moment qu'elle vous transforme aussi. Et que ma vie devenait un roman. Donc c'est toute la relation dialectique qu'il y a entre la réalité et la fiction, ces personnages qui sont en nous, qu'on n'imaginait pas, et qui deviennent des personnages de roman et qui vous transforment.
Alors moi, j'avais très très envie de vous faire un petit peu de lecture de ces deux personnages très très différents et qui nous parlent vraiment de ce que nous sommes au fond. Je crois que l'écriture, enfin, c'est un sujet qui est absolument passionnant et je crois que le métier que j'ai la chance de faire, ben, il est aussi dans cette transmission. Mais finalement, peut-être que j'ai davantage encore envie de savoir quel est votre projet d'écriture à l'un et à l'autre. Et donc, pour vous faire une idée, si vous ne l'avez déjà, de la façon d'écrire de nos invités, ben, vous irez simplement emprunter les livres à la bibliothèque ou les acheter en librairie. Donc, on va commencer par Philippe. Mm-hmm. Le projet en cours ou imminemment sorti ?
Le projet en cours, en fait, ce qui se passe, c'est que là, depuis 2 ans, donc, enfin, l'année passée, est sorti un roman aux éditions de l'Aube qui s'appelle Virtuoso Ostinato, qui est donc le début d'une saga familiale qui se passe en Italie au début du XXe siècle. Le premier roman, donc, c'est Virtuoso Ostinato, et ça se passe entre 1911 et 1930. Le second roman de cette saga est sorti il y a 15 jours. Ça s'appelle Retour à Sancatello. Sancatello, c'est un village imaginaire qui est le village d'où part cette fratrie que je décris que je vais essayer de décrire, en fait, sur 50 ans, en fait. Et donc, le projet à venir sur lequel je vais me mettre assez rapidement, c'est le troisième tome de cette saga. Qui se passe en fait entre 1945 et 1960, et qui raconte donc, qui va un peu boucler l'histoire de ces personnages. En fait, il y a un père, le père un peu tyrannique d'une fratrie de trois gamins dans un village paumé de la montagne italienne au début du XXe siècle. Et on suit, et plus particulièrement, un ou deux des gamins. Il y en a un qui devient concertiste, qui se passionne pour la musique. En fait, c'est l'histoire d'un gamin qui, par passion pour la musique, va rater sa vie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un gamin, il est tellement omnubilé par le fait de la musique et par le fait de faire de la musique, en fait, il va rater sa vie amoureuse, sa vie familiale, il va passer à côté de plein de choses, mais parce qu'en fait, il est obsédé par le fait de faire de la musique. Pour lui, c'est quelque chose qui est terrible. Et donc, cette saga, en fait, elle va se balader sur 3 voire 4 romans. Donc, mon projet actuel, c'est, maintenant que Retour à Sancatello est sorti, commencer l'écriture de celui qui sera juste après. Et il y a d'autres projets, bien évidemment, mais qui sont moins... Même s'ils sont dans ma tête assez précis, je pense que ce ne sera pas dans l'immédiat.
Bien, nous avons pris bonne note et on espère, on attend le troisième tome. Ouais. Mais d'abord, il va falloir aller acheter le second,
voilà,
parce que ce n'est pas encore fait pour moi.
Voir le premier qui vient de ressortir en poche.
Et René, alors ?
Tu parles des projets ?
Des projets, oui, oui.
Tu me fais penser brusquement à une phrase de Dostoïevski que je ne comprenais pas quand j'étais jeune. Il disait « J'ai un projet, devenir fou ». Et je pense que l'écriture, c'est le contraire de ça. C'est ce qui nous empêche justement d'être fou, d'être anxieux, d'être mal. Quand on écrit, l'écriture apaise, l'écriture, c'est tellement délicieux de tisser comme ça des histoires avec des mots que ça repousse la vieillesse, la mort, la solitude, l'anxiété et la folie aussi. Donc c'est le contraire de la phrase de Dostoïevski, parce que qu'est-ce qu'on cherche, Philippe, moi, toi, la radio? On cherche tous à faire correctement quelque chose, à se coucher le soir, à s'endormir en se disant, voilà, aujourd'hui, j'ai fait une bonne page d'écriture, j'ai fait une... Voilà, un peu comme l'affiche de Taxi Driver qui dit, dans chaque rue, il y a un homme seul qui cherche désespérément à prouver qu'il existe. Et nous sommes tous en train de prouver que nous existons en faisant quelque chose d'utile, de bien, qui nous rend vivants. Et bon, moi j'ai terminé un livre il y a 2 mois qui paraîtra chez Gallimard dans quelques mois. Ça s'appelle « Je me souviens de tous vos rêves » et j'ai essayé d'entrer dans le rêve de chacun. Donc c'est un roman qui paraîtra chez Gallimard à l'automne. Et j'ai fait comme d'habitude, j'ai pris mon cahier, je suis parti dans des forêts de mots et j'ai été bien pendant le temps d'un livre. Les seules périodes où je suis anxieux, c'est les périodes où je n'arrive pas à écrire, où l'écriture me fait peur. Entre 2 romans, quand je ne trouve plus les mots, je me sens très vieux, très très laid, très très seul, très voilà. Et dès que j'écris, je me sens jeune, je me sens beau, je me sens vivant. Voilà. Donc j'ai un projet, devenir vieux.
Devenir vieux. Moi j'ai un projet, être heureuse parce que c'est bon pour la santé. Eh bien, je vais peut-être arriver à lire quelques petites lignes.
Tu vois.
Quelques petites lignes d'un polar de Philippe Carrez, 3 jours d'Angatz. Moi, l'Angatz, je sais ce que c'est parce que, ouais, parce la Marseillaise, au fond de moi, elle a dit ça. Et elle dit « Je n'arrive pas à dormir. Allongée sur mon lit, je regarde 2 cancrelats faire leur cinéma au plafond. Jamais de ma vie, j'aurais écrasé une blatte. Jamais. Tout à l'heure, en arrivant, j'ai branché Nordine sur les accessoires auto. » Il paraît qu'il y a un mec qui a la même bagnole que celle de Sénéchal, mais neuve, à la Bégude. Demain, il aura des surprises en allant au travail. J'ai quand même précisé à Nordine que, pour le capot, c'était pas la peine. J'ai pas dit l'histoire complète à Nordine, mais il a vu que ça n'allait pas. Je lui ai raconté que je m'étais empégué un chien berger allemand sur la rocade. En regardant l'état du capot, Nordine m'a répondu « Un berger, peut-être. Allemand, peut-être. Mais pas un chien. Tu as vu les traces, là et là ? Allez, t'occupe, Bernard, laisse-moi faire. » Il a pris la bagnole et il s'est tiré par la petite traverse en bas. C'est vraiment un brave gosse. Il va peut-être avoir des problèmes parce qu'avec la quantité de policiers au mètre carré qui traînent ici à cause de la démolition de l'immeuble, il risque d'être emmerdé. Il n'a pas demandé pourquoi. Finalement, la rue, quand tu as suffisamment la tête sur les épaules, ça forge bien le caractère. Simplement, l'équilibre est très précaire. Tu bascules très très vite dans les embrouilles. Je regarde le plafond. Ça y est, Monsieur Cancrelat a décidé, Madame Cancrelat. Elle avait un peu mal à la tête ce soir, mais finalement, Monsieur Cancrelat a su user d'arguments convaincants. Voilà.
Chez les Cancrelat, ça marche, en fait. C'est ça, le truc. C'est ça qui est terrible, quoi. Voilà, putain. Ça, c'était, en fait, c'est mon tout premier roman.
Oui.
C'est qui est sorti il y a 20 ans, pile.
C'est un beau titre. Les Cancrelat, ça veut parler aux blattes.
Ouais, c'est bien, c'est joli.
Ah, c'est pas mal.
C'est bien, titre, ouais, très bien.
Tu en avais trouvé un tout à l'heure, non ? Qui avait trouvé un titre ? Il y avait un titre extraordinaire sur le prochain livre de René Frény.
Comment on passe tous les deux pour de grands écrivains régionaux, autant mettre un titre.
Oui, c'est ça, avec les cigales.
Les cigales et le pastis.
J'avais dit l'aïoli dans les calanques et après la sieste, la pétanque. Bon,
c'est ça.
En plus, ça rimait, ça parle poésie.
Et au moins, on peut être dans les bons rayons chez les libraires généralistes, les grandes enseignes.
Voilà.
On va dire ça.
Bon, alors après, si vous voulez quelques lignes de notre ami René Frény, c'est lui qui a choisi le texte. C'est l'histoire d'une femme qui donne rendez-vous à un homme qu'elle connaît peu. Dès que celui-ci est dans sa chambre, avant même de l'embrasser, elle le déshabille lentement. Chemise, chaussures, pantalon. Bouton après bouton, ses doigts découvrent chaque centimètre de peau. Quand il est entièrement nu, elle le fait asseoir sur un fauteuil et lui lie solidement les chevilles et les poignets. L'homme sourit. Elle lui bande les yeux. Du bout des ongles, très légèrement, elle parcourt tout son corps. Puis du bout des lèvres, elle effleure son cou, sa nuque, ses seins. Elle se courbe vers son ventre, s'agenouille, regarde un instant la verge longue et cambrée. Souffle coupé, le faux écrivain écoute. La voix de l'infirmière hésite, n'hésite plus. Elle puise dans l'histoire son assurance, sa sensualité. À mesure qu'elle lit, sa robe roule de chaque côté sur ses genoux croisés. Les deux pans de tissu glissent sur les jambes lisses. L'homme est ébloui. Il ne sait plus où il est, du développement si brutal de la nouvelle et de cette jeune femme qui lit cuisse nue jusqu'au ventre. S'est-elle aperçue de sa position provocante ? Est-elle entièrement à sa lecture ? D'un ton égal, elle poursuit. La femme à genoux reçoit dans la bouche avec violence toute la jouissance de l'homme. Elle ne se retire pas, au contraire. Le flot de sa chevelure bascule en avant, se répand sur les cuisses musclées. Alors lentement, elle se relève, contourne l'homme, prend sur son bureau un rasoir aux manches de nacre, l'ouvre et d'un mouvement du poignet très sûr, tranche la gorge de l'homme extasié d'une oreille à l'autre.
C'est même pas féministe. Hein.
Non, pas très féministe.
Figure-toi que depuis tout à l'heure, on explique comment les idées, les émotions arrivent, mais c'est une sorte. Je l'ai écrite parce qu'elle m'est arrivée brutalement. Un jour, je reçois un coup de téléphone et une jeune femme me dit : j'écris des nouvelles, j'aimerais bien vous les lire. Et donc, je prends son adresse et j'arrive chez une femme de 23 ans qui me reçoit dans cette robe fendue. Et je m'assois dans un fauteuil. Elle me lit cette histoire d'un homme qui arrive. On lui attache les pieds, les fauteuils. Le temps passe,
oui.
Je suis obligé
d'aller
très vite.
On est obligé d'aller très, très vite.
Et elle le fait jouir. Elle lui tranche la gorge. Et elle me dit, est-ce que vous reviendrez ? Et j'avais tellement peur de revenir que je lui ai dit, je reviendrai si vous m'ouvrez les yeux bandés. Et je suis revenu et
bon.
Elle avait les yeux bandés.
Eh bien, nous allons conclure sur le fait que l'écriture est quelque chose d'extrêmement dangereux, surtout pour les auteurs.
Quand tu as les yeux bandés et que tu ouvres la porte et que tu te loupes, oui.
Parce que
tu peux te prendre la porte dans la tronche, c'est pas terrible. Oui.
Enfin, eh bien, merci Philippe, merci René. Pour vous tous, à très bientôt sur le chemin des mots.
Merci à vous.
À bientôt.
Lisez nos livres les yeux bandés.
Oui, voilà.
Ça sera pas mal, oui.
Parfait, ça.
En braille.
Mambo, mambo, qué rico, mambo, mambo, qué rico, mambo, mambo, qué rico, mambo, mambo, qué rico, qué rico.